Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Je suis aujourd'hui en présence de Karine Tortel-Vassel, kinésiologue. Alors Karine, c'est à l'âge de petite écolière déjà que tu perçois naturellement les émotions des autres. Loin de te douter que cela pouvait être un don, tu perçois également l'effet que ces émotions avaient sur les capacités de tes camarades. Et tu perçois bientôt que les capacités d'un enfant étaient aussi fortement liées à ce que les adultes croyaient sur la présence ou non de ces capacités. Tu éprouves alors de la peine pour ces camarades laissés au bord du chemin et tu te mets à les soutenir en les aidant, mais surtout en faisant exprès de croire très fort en leurs capacités endormies. Ton père, sourcier, te dote de la permission de savoir percevoir l'invisible, de prendre en compte les sensations de ton corps et d'en déduire les informations perçues sur l'énergie de ce qui est caché aux yeux. Tu t'exerces à la baguette et dans ton besoin de connaissances, en plus de la pratique, s'ensuit une formation en géobiologie. Mais bien plus que pour la recherche d'eau et de courants souterrains, ton attirance se tourne vers l'humain. Au fond de toi-même, tu sais que la solution est là et qu'il te faut trouver comment accéder à cette sagesse du corps. De la baguette du sourcier vient le Reiki, car c'est avec tes mains que tu soignes, que tu veux soigner. La kinésiologie te fut soufflée, une voix, un guide. Il ne s'est pas présenté, mais il délivrera le message que c'est avec le corps ta destinée. Karine Tortel-Vassel, bonjour et merci d'être avec nous. Karine, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est la kinésiologie ?
Déjà bonjour, merci de m'accueillir, j'en suis très honorée. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie ? La kinésiologie, au fond, c'est une technique qui permet d'entrer en contact avec le corps et avec les messages qui sont enregistrés dans le corps. On ne sait pas trop si c'est le corps ou si c'est l'inconscient, où se loge l'inconscient, mais toujours est-il que c'est le corps qui nous donne des réponses sur une présence ou non de stress par rapport à une certaine proposition. En kinésiologie, on a pris l'habitude d'appeler stress à peu près tout ce qui ne nous convient pas ou moins. Donc ça peut être un petit stress, ça peut être un grand stress et ça peut être un traumatisme. On appelle tout ça des stress. Et donc on va interroger le corps par rapport à une thématique que la personne amène. Quel est le stress qui cause la problématique ? Et le corps va nous répondre à certaines questions. Il répond par oui ou non, présence de stress ou absence de stress par rapport à une proposition. Et cela va nous guider sur un chemin, le chemin que le corps nous indique, ce qui nous permet de rester toujours au plus près de ce que la personne amène et de ce que la personne peut gérer. Parce que le corps a cette chose formidable de nous sortir les choses uniquement quand on est capable de les gérer. Voilà pour la kinésiologie. Pour moi, ça reste la technique de base dans mes séances. Et après, au-delà de la technique, chaque kinésiologue vient enrichir sa pratique de soit d'autres méthodes, d'autres techniques, soit aussi de toutes les philosophies de vie qu'il aborde lui-même pour soi-même et pour les autres.
Un peu comme les ostéopathes, finalement. Les ostéopathes, il y a une base en ostéopathie, et puis après, chacun amène un petit peu en fonction de son expérience. Pour donner un corps différent à sa séance.
Oui, et chacun va utiliser des outils différents, basés toujours sur une entente de base qui s'appelle l'ostéopathie. Mm-hmm. Et bien, en kinésiologie, c'est pareil. L'entente de base, c'est on communique avec le corps par le test musculaire.
D'accord.
Qui est basé sur le fait que quand nous sommes en stress, nos muscles sont mous. Et on perd notre tonicité.
D'accord.
Quand il n'y a pas de stress, nous sommes toniques.
Ah, c'est marrant, on aurait peut-être plutôt tendance à penser le contraire, que des fois, quand on est stressé, on a plutôt tendance à se crisper.
Oui, la crispation, en fait, c'est la compensation de ce côté mou.
D'accord.
Puisqu'on ne veut pas être mou, on ne veut pas tomber dans les pommes, on ne veut pas tout relâcher, on va y mettre une surtonicité et on va se crisper pour compenser. Donc, il y a les trois indications que le corps va pouvoir nous donner.
D'accord. Donc, il y a ce relâchement, il y a la surcrispation et il y a le fait d'être tonique naturellement. Sans état de stress, en
voilà,
fait.
Voilà, une tonicité naturelle, oui.
D'accord. Et quelles sont les... J'allais te dire, quelles sont les réactions de stress? Mais bon, là, tu viens d'y répondre. Le stress, il peut avoir finalement différentes mesures. Ça peut être parce que tu parlais de traumatisme aussi. Donc, il y a différents degrés, en fait, de stress.
Oui, en fait, on a... Évidemment, les stress superficiels qu'on vit tous, tous les jours. Il y a même une réaction de stress qui peut être très saine. C'est le stress qui nous met simplement en tonicité et en capacité d'agir, de réagir et d'être actif dans la vie. Après, on a les stress qui nous font dire « je suis stressée ». Parce que voilà, j'ai accumulé trop de choses. Quand le corps nous parle de stress le plus profond, en fait, le plus souvent, en fait, ce sont des stress profonds. C'est-à-dire, on arrive dans des stress profonds quand la courbe de stress n'arrive plus à redescendre.
D'accord.
Un stress qui monte et qui redescend est quelque chose d'absolument naturel et que tout le monde sait gérer. Ce qu'on ne sait plus gérer, c'est quand le stress reste en haut et qu'on reste donc dans cette physiologie du stress aussi, comme si on baignait constamment dans de l'adrénaline, jour et nuit. Et là, ça devient compliqué. Et les stress profonds, les traumatismes, justement, nous mettent plus ou moins dans cet état-là.
D'accord. Un état d'alerte, finalement, permanent. Qui fait qu'on ne redescend pas.
Oui. Qui fait qu'on ne redescend pas, qui fait qu'on essaie de trouver des moyens de compenser, qu'on va empiler dessus, mais qui font qu'on n'est jamais stable, même dans notre compensation.
Bien sûr.
On a toujours ce stress en fond, en toile de fond, comme si c'était un ronronnement permanent, qu'on n'entend plus, mais il nous fatigue quand même.
Oui, c'est ce qui peut aussi amener parfois même au burn-out, on en parlait tout à l'heure, d'être toujours sollicité dans ce stress, d'être toujours soit en train de tout le temps faire quelque chose ou de jamais redescendre. En fait, au bout d'un moment, le corps, l'esprit...
Ça peut être le burn-out
et le burn-out,
ça peut aller jusqu'à des maladies, effectivement, parce que le corps, à un moment donné, il ne gère plus et il va basculer dans la maladie pour nous dire « tu ne m'as pas entendu jusqu'ici, maintenant j'augmente le ton ». Voilà. Et aussi, sur le plan physiologique, parce que ces hormones de stress ne nous font pas du bien, parce que ce n'est pas fait pour être là en permanence.
Et quand la maladie arrive, ou même le burn-out, ça rejoint ce que tu disais, voilà, le corps lâche, en fait. Donc tout cet état de stress amène à un relâchement qui n'avait pas été fait à petite dose, en fait, au fur et à mesure, et au bout d'un moment,
absolument,
ça lâche complètement.
Parce qu'on est déjà allé bien trop loin.
Alors, Karine Tortel-Vassel, tu travailles avec les adultes, oui. Mais aussi avec les enfants et les bébés, parce que très jeune, tu comprends que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, que les enfants, s'ils sont parfois, entre guillemets, moins bons à l'école ou moins concentrés, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus gros, de plus important pour eux qui les préoccupe. Et que ce quelque chose n'est pas forcément entendu par les adultes. Et donc tu décides à ce moment-là d'être celle qui saura les entendre, tout du moins entendre les mots de leur corps, de leur âme, pour les aider à dépasser leurs émotions. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce travail que tu fais avec eux, avec les enfants ?
Les enfants sont hyper réceptifs. En fait, tout le monde le dit d'ailleurs, c'est une vraie éponge, les enfants sont des vraies éponges, ça on le sait très bien. Et ce qui est là derrière, c'est que les enfants sont effectivement hyper télépathiques, si on veut.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'enfant baigne dans les énergies et ne fait pas encore la différence entre ce qu'il perçoit sur le plan énergétique, ce qu'il perçoit simplement d'une manière sensitive et ce qu'il perçoit par les yeux et par les oreilles. Alors nous, adultes, on s'est cantonné sur nos cinq sens et ce qui ne rentre pas par les cinq sens, ça n'existe pas, bien que... On le sait quand même que ça existe. Et pour les enfants, ils ne font pas la différence.
D'accord.
Donc, un enfant qui va être face à un adulte qui est en stress va se sentir stressé aussi parce que le stress rentre dans son champ énergétique et en rentrant dans son champ énergétique, il va se manifester dans son corps. Et là où l'erreur intervient, c'est... Quand on a quelque chose dans notre corps qui se manifeste, on va l'interpréter comme étant quelque chose qui nous appartient. Or, ça peut très souvent être une information qui appartient à l'autre. L'autre est en colère, je me sens en colère, alors que moi, je n'ai pas une raison, lui, il en a une bonne. Mais je vais le vivre dans mon corps et je vais me dire je suis en colère et je ne sais pas gérer ma colère. Donc ça, c'est vrai pour les adultes et c'est encore plus vrai pour les enfants qui portent souvent des stress qui sont vraiment loin de ce qui peut être leur propre vécu et qui sortent de leur environnement énergétique. En sachant que énergie, c'est toute émotion, toute pensée. Toute sensation s'exprime par des vibrations et par des énergies. Alors si la maman est préoccupée, l'enfant va se sentir préoccupé alors qu'il ne sait même pas encore ce que c'est. Un bébé de 3 mois par exemple.
Oui, donc ça peut être très très tôt, enfin, ça peut être dès la naissance.
Ça peut être dès la naissance, voire même avant. Donc on va parfois aussi chercher avant la naissance.
D'accord.
Et si je dis on va chercher, c'est plus le corps qui nous indique sur la question à quel moment le stress est enregistré. Il va nous dire, oui voilà, entre l'âge de 3 et 0 avant la naissance, quel mois avant la naissance. Et ce sont des indications qui sont... plutôt précise et qu'en général, la mère peut relier à un événement qui s'est produit à ce moment-là, de sa grossesse.
Donc, voilà. Il y a une information, en fait, qui est dans le corps de l'enfant et qui va te ramener, en fait, à ce moment de vie, peut-être in utero.
Qui peut être un stress qui a été vécu par la mère à ce moment-là et que l'enfant a enregistré déjà par la physiologie parce que quand nous émettons des hormones de stress, le bébé, ben, il baigne dedans et le reçoit. Donc pour lui, il commence à enregistrer ce genre d'informations qui sont des informations émotionnelles.
Donc c'est un stress voilà, qui peut être généré donc, par les parents ou par la maman quand c'est in utero. Pour les enfants qui sont un peu plus grands, qui sont, on va dire, déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans, du coup, à quel type de stress ils peuvent être confrontés ? Est-ce qu'ils vont aussi avoir ce lien avec les parents, par exemple ? Voilà, est-ce que ce stress peut venir aussi d'une personne extérieure et donc eux, ils vont, entre guillemets, absorber cette énergie-là ou... Parce que comment distinguer du coup les deux?
L'enfant, entre 0 et 3 ans, voire jusqu'à 7 ans, est comme s'il était en téléchargement permanent du disque dur de l'adulte. Donc en fait, il va enregistrer toutes ces choses-là. Et ce n'est pas à l'âge de 7 ans qu'il va aller en amnésie de tout ça. Il va continuer à se construire sur ce qu'il a déjà enregistré. Maintenant, s'il y a une situation stressante qui perdure, par exemple, si c'est une situation familiale qui est stressante à 3 ans et qui à 8 ans est toujours la même, ben, l'enfant va continuer à agir en fonction et à utiliser ce qu'il a enregistré déjà petit. Et c'est un petit peu la même chose qu'un adulte qui peut toujours être en état de fonctionnement sur quelque chose qu'il a enregistré entre 0 et 3 ans. Maintenant, c'est l'environnement aussi de l'enfant qui fait que il devient un peu moins sensible consciemment à ces énergies extérieures, mais elles sont toujours là, elles vont continuer à l'influencer. Mmh. Pareil qu'un adulte d'ailleurs, nous sommes tous là à être tout le temps influencés par tout ce qu'on nous présente, seulement nous en sommes plus ou moins conscients. Et moins nous prenons conscience de ces influences-là, plus nous allons mettre les choses sur notre propre compte et aller dans des conflits qu'on ne sait pas résoudre parce que je ne peux pas résoudre le conflit de l'autre. Comme j'ai dit de la colère tout à l'heure, je peux ressentir la colère de l'autre, je peux me sentir en colère, mais je peux aller sur une piste complètement erronée quand je vais chercher pourquoi moi je suis en colère.
Oui, alors qu'en fait, parfois, on essaie de régler des problèmes à travers des soins ou à travers des thérapies. On règle des problèmes qui, en fait, ne nous appartiennent pas et qui sont soit du transgénérationnel ou des autres, en fait.
Et on peut rester des années en thérapie comme ça, en essayant de régler des choses qui ne nous appartiennent pas. Oui.
Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso.
Est-ce que par rapport à tes séances, tu sens qu'il y a plus de facilité à libérer, à ce que les émotions des enfants se libèrent plutôt que chez l'adulte ?
L'enfant réagit très très vite parce qu'il n'a pas d'a priori, il n'a pas un mental qui va intervenir et qui va essayer de comprendre et de mettre des significations dessus. Pour l'enfant, plus il est petit, plus c'est rapide. Juste un petit changement dans son énergie qui est fait par des méthodes énergétiques, en fait. Juste un petit réglage dans l'énergie lui permet d'être à nouveau détendu et de fonctionner dans son mieux, en fait. Un enfant passe très, très vite... des larmes au rire. Parce qu'une fois que les larmes sont terminées, c'est terminé. Et ben pour un petit réglage énergétique, ça va être la même chose. C'est de l'instantané, on lui permet d'apaiser ça, et ben c'est apaisé. Et c'est ça la beauté du travail avec les enfants, qu'on peut se dire, ben, cet enfant-là, il aurait pu traîner ça jusqu'à l'âge de 40 ans. Il ne le traînera pas. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir devenir s'il fonctionne, lui, dans cette ouverture qui est la sienne et qui est naturelle et qui n'est pas polluée par ses conditionnements.
Alors, quand tu travailles avec des tout-petits, donc on parlait qu'il y avait de toute façon un lien avec la maman qui est très fort ou avec le papa. Est-ce que finalement le fait de faire une séance à l'enfant, ça induit ça a une répercussion sur la maman ou sur le papa ? Est-ce que tu travailles juste avec que l'enfant ou tu vois ?
Je travaille forcément avec les deux parce que déjà l'enfant ne vient pas seul. Il vient avec en général la maman. Et puisqu'on travaille sur l'énergie, on est dans cette bulle. Les deux sont dans une même bulle et on va venir réguler quelque chose dans cette bulle. Pour l'enfant, ça va être de l'instantané. Ça peut être même en jouant. Il m'arrive parfois quand l'enfant bouge trop, je ne peux pas le tester. Je peux très bien tester la maman par transfert parce que la problématique se trouve dans la même bulle. On peut faire les équilibrations sur la maman. L'enfant est là et joue à côté. Et le lendemain, la maman va dire « Mais c'est miraculeux, il a enfin dormi. » Donc, il n'y a rien de miraculeux véritablement parce que cette bulle d'énergie dans laquelle baignent les deux est permanente pour les deux. Donc, tout ce qui concerne l'enfant concerne la maman et ce qui concerne la maman concerne l'enfant.
Alors, à travers justement hein, ce lien, cette bulle, ces énergies, toi, tu as découvert, à force de pratique, qu'il y avait aussi une sorte de méthode qui se mettait en place systématiquement lors de tes séances. Et cette méthode est basée sur les chakras. Et elle est en fait ton fil conducteur. Soit c'est ta petite touche personnelle dans la kinésiologie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de cette trame ?
Oui, ce fil conducteur, je l'ai appelé les 7 niveaux de la conscience.
C'est joli.
On se construit dans un certain rythme, dans ce même fil conducteur. La première chose qu'on met en place dans notre vie, c'est notre sens de la sécurité. Donc, ça nous parle de notre chakra de la racine, le premier chakra. Le deuxième, ça va être notre capacité d'échanger avec maman, d'échanger avec des émotions, d'être avec l'autre. Le troisième niveau va être de fonctionner en société avec les autres, avec un cercle plus large que juste avec une personne, juste avec maman, etc., etc. Donc en fait, on se construit comme ça, et quand on a besoin de se reconstruire, on est obligé pratiquement de passer par la même construction. Je ne peux pas réguler, si je peux pour un instant, réguler quelque chose qui est sur le cinquième chakra, parce que j'ai envie de voir plus clair dans ma vie, etc. Ou de pouvoir m'exprimer, je ne sais pas prendre la parole, je peux réguler ça pour un instant, mais ça ne va pas tenir si mes fondations ne sont pas des fondations qui sont fermes et bien posées. Alors pour moi, ça fait un petit peu comme s'il y avait des ronds qui se superposent. Quand ces ronds sont bien alignés, ça donne un axe à travers lequel la vie peut circuler. Par contre, quand ces ronds ne sont pas stables et alignés, ça fait un petit peu comme au cirque, quand vous avez ces cylindres, une planche, cylindre, planche, cylindre, planche, et on est là-dessus et on essaie de trouver notre équilibre. Mmh. Et en fait, c'est tout le temps en train de bouger. Et on a peut-être un instant d'équilibre à un endroit, mais on le cherche, notre équilibre. Je me suis aperçue que quand les gens viennent sur des périodes un peu plus longues pour vraiment se reconstruire, même sans que j'induise quoi que ce soit, la première séance va porter sur le premier chakra, la deuxième va porter sur le deuxième chakra, et la troisième sur le troisième, et ainsi de suite. Et je me suis même aperçue que des personnes qui arrêtent là et qui ne viennent plus pendant 2 ans, ils vont revenir et ils vont reprendre là où ils se sont arrêtés.
D'accord. Donc en fait, ce serait presque pour un travail complet, il faudrait presque une séance par chakra en fait.
Pour un travail complet autour d'une problématique, c'est bien d'avoir une séance par chakra pour être aligné, sachant que ce sont des spirales. Et à chaque niveau de notre développement, on va repasser sur les mêmes problématiques, mais plus à la même hauteur. Mmh. Donc, quand une problématique revient, on ne peut pas dire « ça ne m'a rien fait, j'ai toujours pas réglé ce problème ». Mmh. Je l'aborde maintenant sur un niveau de conscience différent, et donc j'ai besoin de le voir aussi à ce niveau de conscience.
D'accord.
Et c'est un peu comme ça qu'on a tous nos piliers qui nous accompagnent toute notre vie et qu'on comprend d'une manière différente à chaque tour de piste. Et pour moi, un tour de piste, ce sont justement ces 7 chakras, ces 7 séances.
Quelle que soit la problématique ?
Quelle que soit la problématique, oui. Et bien sûr, c'est toujours avec le feedback du corps. Et c'est très très rare qu'un corps demande une deuxième séance à un même niveau.
D'accord.
Ça peut arriver quand vraiment quelque chose est très très bloqué, mais c'est vraiment très très rare.
D'accord. Donc après, une fois que cette harmonisation des 7 chakras, elle a été faite, c'est considéré comme acquis. La personne, du coup, elle a un changement, une modification de sa conscience.
Elle a une modification de sa conscience, je dirais même à partir de la première séance déjà.
D'accord.
Elle a une modification dans son comportement, elle voit les résultats dans sa vie.
D'accord.
Et elle peut aussi se dire « ça me suffit pour l'instant ». Voilà, donc ça c'est vraiment le choix de chaque personne. Mais voilà, c'est un petit peu aussi un train qui cache un autre. Donc souvent, j'ai le retour. Ça a marché, j'étais super bien pendant 15 jours. Et là, depuis une semaine, ça ne va plus du tout. Et bien, c'est qu'on a intégré le premier niveau et le corps est en train de nous montrer le deuxième et dire, mais écoute, tu as pris un rendez-vous là, alors j'aimerais bien que cette fois, on regarde ça. Et il va nous sortir ça.
D'accord.
Et justement, ça va à nouveau mal. Souvent, ce n'est pas le même mal. C'est carrément un autre mal qui se présente et qui dit ça aussi.
D'accord.
Et il y a ce blocage aussi. Et il y a ce blocage aussi, un à la fois.
Donc, les séances, en fait, elles sont espacées en fonction du ressenti de chacun, en fonction de l'expérience de chacun.
Déjà, en fonction de la demande du corps.
D'accord.
Je demande au corps quel est le temps d'intégration qu'il voudrait avoir. Donc, ça se compte en semaines, en fait. C'est 3 semaines, 4 semaines en général, parfois 2 semaines. Et Bien sûr, c'est toujours la tête qui décide derrière et qui peut dire oui, mais 3 semaines, c'est trop court, j'ai pas le temps, je reviens dans 6 semaines. Ça, c'est pas un problème. Mais on va pas intervenir toutes les semaines parce que c'est systématique et toutes les semaines ouvrir une nouvelle porte et jamais la personne a le temps de franchir le seuil. Donc, si elle a besoin de 3 semaines pour aller expérimenter cette chose dans la vie, pour que ça puisse se stabiliser dans sa vie, ben, on va respecter ce rythme-là, tout en laissant toujours la porte ouverte de s'il y a un pépin qui arrive, s'il faut se calmer, s'il y a un besoin de juste une petite intervention pour apaiser, ça peut toujours se faire.
Donc le corps va répondre tranquillement à ses propres besoins et va guider en fait la personne au moment voulu, bien sûr avec le cerveau qui va être décisionnaire, oui. mais le corps est vraiment en confiance pour amener la personne petit à petit sur la voie de la guérison et puis de décider d'envoyer le message pour dire là ça va être le moment de reprendre un rendez-vous, de refaire une séance ou de passer à autre chose, de passer à l'étape supérieure.
Oui, c'est le corps qui nous le dit. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand les rendez-vous sont pris à l'avance, le corps va être plein de gratitude pour ça finalement et vraiment sortir la problématique juste avant la séance. Donc c'est vraiment un travail où le corps se dit « Ah, chouette, on va pouvoir. Ouais. » Maintenant, si c'est laissé carrément ouvert et que, oui, quand j'ai à nouveau un problème, je retournerai écouter mon corps. On se trouve souvent sur un fonctionnement où on est toujours en train d'éteindre le feu, en fait. C'est la fonction du pompier et c'est un peu toujours le même feu qui se déclenche. Donc, ça peut se faire et ça fait du bien d'éteindre le feu, bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand on a vraiment une problématique, ça fait du bien de dire « bon maintenant, j'ai envie de changer ça pour le reste de ma vie, j'ai envie d'évoluer ». Et dans ce cas, il y a aussi ce côté engagement vis-à-vis de soi-même qu'on peut prendre et qu'on peut se dire « mais voilà, maintenant j'y vais ». Cette séance, voilà, ça va me faire 7 mois. Dans 7 mois, je ne suis plus la même personne, sachant que déjà à la première séance, ça va me faire du bien. Voilà, donc, mais ça, en fait, c'est le choix de chacun, bien sûr.
Karine Tortel-Vassol, notre émission touche à sa fin. Merci pour ton partage.
Merci pour l'écoute et le partage aussi.
Et je vous rappelle que l'émission sera en podcast sur le site de la radio www.radiofmplus.org, mais aussi sur www.treehome.fr. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.